camarades et amis, bonsoir. Nous allons donc commencer la réunion publique. Merci pour ceux qui ne sont pas installés. J'espère que tout le monde a une chaise. Voilà, ça a l'air. Bon. Et bien sûr, on vous demande d'éteindre votre portable. Je pense que tout le monde y a pensé, bien sûr. Voilà. Alors bon, vous avez pu constater que le cadre dans lequel nous tenons cette réunion a changé. Avant, notre réunion publique se tenait à la Bourse du Travail. Aujourd'hui, cette réunion avec Nathalie Arthaud ne s'y tient pas parce que François Baroin, le maire UMP, un fidèle de Chirac, a décidé de transformer ce lieu, riche en tradition ouvrière, en un centre commercial. C'est à l'image de ce que les politiciens au service du monde des patrons organisent comme avenir pour le monde du travail. Je vais maintenant vous présenter la tribune. Tout d'abord, Nathalie Arthaud, qui sera donc candidate au CDR. À côté de Nathalie Arthaud, il y a Pierre Bisset, élu conseiller municipal à Châteauneuf-Saint-Loup. Et moi-même, Pascal Andrieux. Et passer la parole à Pierre Bisset.
Bienvenue à Nathalie Arthaud. Sa présence à Troyes est une première, du moins en tant que candidate à l'élection présidentielle, mais certainement pas la dernière. Il faut dire qu'ici, à 150 km de Paris, nous avons été habitués à la visite fréquente d'Arlette Laguiller, qui, en 97, n'avait même pas été arrêté par une tempête de neige, ni les participants non plus. Certains s'en souviennent encore. Le micro, ça il était temps. Pour la venue de Nathalie Arthaud, assez spontanément, les camarades ont envisagé d'utiliser le train. J'ai dû les en dissuader, car il aurait été impossible d'être assuré qu'elle puisse arriver à l'heure à notre rendez-vous de ce soir. L'Aube est en effet le seul territoire du pays où le réseau ferroviaire n'est toujours pas électrifié. Serait-ce que la fée électricité n'a pas daigné poser sa baguette sur les rails qui traversent l'Aube? Non. C'est que la SNCF a privilégié les deux axes TGV, le Paris-Dijon et le TGV Est. Elle ne se préoccupe que de rentabiliser des investissements lourds. Cette politique a condamné de nombreuses lignes dans le pays. Les travaux pour l'électrification de la ligne Paris-Val, c'est une bonne nouvelle, ou plutôt le Paris 3, c'est déjà plus mitigé, viennent seulement de commencer. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. De plus, les travaux d'entretien courant, qui pendant des années ont été réduits en même temps que le personnel qualifié sur les chantiers, ces travaux n'en finissent plus maintenant. D'où des ralentissements, des arrêts en pleine campagne, des pannes de signalisation ou de locomotive, des suppressions de trains, auxquels s'ajoutent les incidents dus à un entretien dégradé du matériel, par suite des réductions de personnel dans les ateliers SNCF comme à Omi, avec des locomotives qui brûlent, parce que trop vieilles, ou, bien que neuves, brûlent quand même, parce qu'elles ne sont pas assez puissantes. Depuis la division en deux de la SNCF, la réalisation de ces travaux est sous-traitée au privé. À l'époque où les trains avaient la réputation d'être à l'heure, les travaux de renouvellement des voies étaient prévus des années à l'avance, avec le personnel nécessaire, et surtout étaient gérés de bout en bout par la même entreprise, la SNCF. Aujourd'hui, Réseau Ferré de France choisit les entreprises du privé les moins chères qui, elles, ne sont motivés que par l'appât du gain. Cette ouverture à la concurrence, cette course à la privatisation, ce sont les usagers et tous les travailleurs du ferroviaire qui continuent à en payer le prix. Il faudrait une toute autre politique que celle menée depuis des années par l'État et les SNCF, tous deux à la recherche de la seule rentabilité financière. À ce propos, il faut tout le mépris de François Baroin, le maire de Troyes, aujourd'hui aussi ministre des Finances, de l'Économie et de l'Industrie, pour, lors de ses vœux au personnel de la mairie, chercher à amuser la galerie de politiciens présents, bien au courant des rebondissements de ce dossier qui dure, en ironisant sur, et ça, là je le cite, le train électronique, pardon, non pas électronique, le train électrique des Troyens. La ville de Troie, où est née la bonneterie, s'est longtemps revendiquée comme la capitale de la manne. Il est vrai que les usines textiles, où des milliers d'ouvrières produisaient chaussettes, sous-vêtements et tricots, avec des marques prestigieuses comme le crocodile Lacoste, excusez du peu pour un capitaliste d'afficher un tel emblème, mais aussi des marques comme Scandal, Petit Bateau, Olympia ou Dédé. Ces ouvrières ont fait longtemps la fortune de quelques familles bourgeoises, de capitalistes, de nombreux capitalistes. Sauf que les effectifs sont tombés de 25 000 salariés il y a une quarantaine d'années à seulement quelques milliers aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il n'y a quasiment pas de mois sans l'annonce de plans de licenciement ou de fermeture d'entreprises. Toutes les transformations des entreprises textiles se sont traduites par des destructions massives d'emplois. Aujourd'hui, l'usine de chaussettes Doré-Doré de Fontaine-des-Grès a annoncé sa fermeture définitive après de nombreuses vagues de licenciements. Patron et actionnaire de Dédé, après avoir vendu tout le patrimoine immobilier accumulé depuis 200 ans, après avoir licencié, c'est la dernière vague, 236 salariés en 2003, décide la fin de l'usine et la porte pour les 48 derniers salariés. Les entreprises textiles qui existent encore, comme celle de Devant-Lay, rachetée par le groupe Mauss, ou Petit Bateau, racheté par le groupe Yves Rocher, sont le plus souvent devenues des entreprises quasiment sans usine. La production y est conçue, le design, les collections et les modèles y sont créés. On y assure seulement que les petites séries, les échantillons et le réassort pour les grandes surfaces, ainsi que les expéditions avec, là il y a eu un transfert de personnel sur des plateformes logistiques. Quant aux teinturies, elles ont disparu. Mais la production textile induisait aussi des emplois dans la mécanique, avec notamment la fabrication de machines-outils. Ces secteurs aussi ont été laminés. Des zones industrielles entières ont été remplacées par des magasins d'usines, qui ne vendent pas de production locale, mais des produits importés. Certes, les magasins d'usines emploient quelques dizaines de vendeuses et de vendeurs, surtout pendant les périodes de soldes. Certes, ces magasins drainent une clientèle à 200 km à la ronde, induisant des emplois dans les secteurs de la restauration ou de l'hôtellerie. Mais ces quelques créations d'emplois sont loin de compenser les milliers d'emplois supprimés. Elles sont loin d'offrir une possibilité de travailler à tous les licenciés ou aux jeunes sortant de l'école. Tous ces groupes ont perçu pendant des années des aides publiques au titre de la défense de l'emploi. Les difficultés prétendues des propriétaires et actionnaires des entreprises textiles ont justifié le versement de nombreuses aides par l'État, des aides publiques, et des exonérations supplémentaires. Il y a eu notamment le fameux plan textile. Et puis par la suite, beaucoup de ces capitaux sont souvent partis s'investir dans d'autres secteurs. Mais pour les milliers d'ouvrières de textile qui ont perdu leur travail, le seul choix possible, c'est ou le chômage, ou changer de métier pour essayer de se faire embaucher par une mairie ou par un service public comme l'hôpital. C'est justement cela que refusent les 50 salariés de Sodi Médical, qui fabriquent à Plancy-l'Abbaye, une petite commune rurale de l'Aube, pas loin d'ici, des pansements et champs opératoires. C'est que le textile ne concerne pas seulement l'habillement. Depuis un an, elle résiste à Lohmann & Rocher, un groupe mondial riche à milliards, qui veut liquider cette petite usine tout en continuant d'amasser des profits faramineux grâce à tout le matériel médical qu'il vend à travers le monde, notamment aux hôpitaux et cliniques en France. Il délocalise cette production en Chine et organise la fermeture de l'usine de Plancy en lui vidant les caisses, lui supprimant gestion, financement et commandes. La multinationale ose prétendre que Sodi Médical est simplement un sous-traitant et non une filiale. Cela pour parvenir à licencier tout le personnel sans bourse des billets. Cela fait des mois que les ouvrières occupent l'usine, empêchant sa mise en liquidation judiciaire, obtenant la reprise du paiement de leur salaire, réclamant toujours que la production reprenne. Il leur a fallu retenir leur directeur quelques heures pour obtenir satisfaction sur certains points. Aujourd'hui, Lohmann et Rocher vient à nouveau de cesser de régler les salaires et même d'engager une procédure dite de sauvegarde auprès du tribunal de commerce d'Épinal pour placer sous sa protection le site commercial de Remiremont et ses 116 salariés. C'est un chantage exercé par le groupe et ce chantage monte encore d'un cran. Et Lehmann Rocher fait ainsi rebondir le feuilleton judiciaire qu'il arrive à faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Il essaye à nouveau d'obtenir de la justice la liquidation judiciaire de ce dit médical, ce qu'il n'avait pas pu obtenir jusqu'à présent. Eh bien, tous les milliards de Lehmann Rocher doivent servir à maintenir l'emploi et les salaires, ici à Plancy, comme à Remiremont. N'est pas cantonnée au textile. Elle touche aussi tous les autres secteurs de l'économie, par exemple la métallurgie avec Vachette ou Petit-Jean. L'entreprise Petit-Jean fabrique des poteaux et mâts en acier et aluminium destinés à l'éclairage. Je vais remonter un peu dans le passé, et certains se souviennent ici qu'elle avait vu son carnet de commandes exploser grâce à l'État. En l'occurrence, c'était Robert Gallet qui était à l'époque maire de Troyes, était aussi ministre des PTT, il a été de 69 à 72. Et son gouvernement, lequel il appartenait à l'époque, il en a fait beaucoup, avait décidé de remplacer les poteaux en bois par des poteaux métalliques pour le transport de l'électricité et les télécommunications. Excellente idée, initiative pour Petit Jean, qui est devenu bien grand. Gallet, qui a rendu les mêmes services à Areva, à une plus grande échelle, dans un autre domaine, dans le nucléaire, a su servir avec zèle gouvernement et patronat et cultiver dans le même temps ses propres intérêts locaux de politiciens bourgeois. L'usine de Saint-André a depuis été vendue à plusieurs reprises. Elle fait partie aujourd'hui du groupe italien Tecnopali. Cela fait des années que les 700 salariés organisent des mouvements, débrayent chaque fois que leur direction envisage de restructurer l'usine en licenciant des centaines de salariés. Dans le secteur de la galvanisation, les normes de pollution ne sont pas respectées. L'amende rituelle n'a guère gêné Petit Jean jusque-là. Cette année, la direction a annoncé être décidée à réaliser les investissements lourds pour y remédier. Et dans les premiers mois, curieusement, la production y a été, en toute pollution, parce que rien n'a été rectifié, la production y a été accélérée. Au point même que les stocks seraient aujourd'hui beaucoup trop importants. Et fin octobre, la direction a arrêté toute activité à la galvanisation et a décidé de sous-traiter la galvanisation des mâts. Toutes ces décisions successives semblent incohérentes, mais sont forcément inquiétantes. D'autant qu'après avoir remercié la centaine d'intérimaires, la direction impose dans plusieurs secteur, la semaine à 23 heures, usant des horaires annuels modulables. Et le bruit court, rapporté même par la presse locale, que l'usine de Saint-André serait en dépôt de bilan, alors que l'actionnaire Tecnopali aurait trouvé des acheteurs. Pourquoi faire? Est-ce pour investir dans la remise aux normes de la Galva? Pour supprimer ce secteur? Mystère. Devant l'inquiétude générale, la direction n'a démenti qu'une seule information, en précisant que les salaires de novembre seraient bien versés, ce qui est bien quand même la moindre des choses, mais quand même pour maintenir l'inquiétude avec quelques jours de retard. De la réunion qui a eu lieu à Paris, qui a eu lieu lundi 21 novembre, quelques jours, rien n'a encore quasiment transpiré, et les salariés attendent la réunion de demain. La direction de Petit Jean, comme dans beaucoup d'autres secteurs, distille des informations partielles, contradictoires ou mensongères. Elle veut inquiéter les salariés pour tenter de les déstabiliser et les empêcher de réagir. Mais ces décisions qui se préparent dans le secret des cénacles de la direction, il y a bien des gens qui les connaissent, à commencer par les salariés dans les ateliers ou les bureaux. Il faut bien que des secrétaires rédigent mails, lettres, rapports ou mémos. Il y a forcément des ingénieurs ou cadres au courant des projets. Et parmi eux, il y a forcément des personnes que cela choque. Les salariés de Petit-Jean, la population qui vit de la présence de cette grosse usine, ont le droit de savoir ce que les actionnaires cherchent justement à nous cacher. Pour nous, il est important d'en arriver à contrôler les comptes de l'entreprise et pour y parvenir, il est vital de lever le secret des affaires. Ce sont des problèmes similaires qu'affrontent les travailleurs d'un tout autre secteur, celui de la presse. Le journal gratuit paru vendu du groupe Persan Média a été mis tout récemment en liquidation judiciaire. 1650 salariés à l'échelle du pays, dont 80 sur la chapelle Saint-Luc, sont en cours de licenciement. Ils manifestaient encore cet après-midi. Et Persan, pendant des années, a accumulé des profits grâce aux petites annonces qu'il multipliait à travers les campagnes et dans les villes. Il juge ce secteur pas assez intéressant. Il s'est fait doubler ou pas par Internet. Le problème n'est pas là. Là, le problème, c'est que Hersan a décidé tout simplement de couper cette branche qui ne l'intéresse plus pour aller investir ses capitaux ailleurs. Et c'est choquant. Et d'ailleurs, il prépare dans le secteur de la presse de nouveaux coups qui toucheront nombre de salariés dans la presse, pas seulement les commerciaux, pas seulement ceux qui travaillent dans les imprimeries, mais aussi tous ceux qui travaillent, y compris les journalistes. Dans tous ces secteurs, ce sont les profits qui imposent leurs lois. Les services publics eux-mêmes ne sont pas épargnés. Pour le candidat à Sarkozy, les services à la personne devaient représenter le secteur à développer en priorité. Mais alors que le gouvernement pérore sur le risque de dépendance, ce secteur est aujourd'hui aux abois, à cause de toutes les restrictions des budgets sociaux. Alors, dans l'aube, juste avant l'été, les aides à domicile en milieu rural, qu'on appelle les ADMR, se sont mobilisées. Dans les communes rurales de l'aube, elles sont 750 salariés à intervenir chaque jour au domicile de personnes malades, handicapées ou âgées. La Fédération de l'Aube des ADMR, sans se préoccuper de l'avis des personnels, avait décidé de liquider la moitié des 33 associations de l'Aube et de licencier une centaine de personnels, en le cachant bien sûr. La mobilisation du personnel l'en a empêché. Mais le combat doit continuer puisque ce secteur est aujourd'hui en redressement judiciaire sous la surveillance du Conseil général, qui a dit les choses clairement. Il veut rétablir l'équilibre du budget en faisant des économies, alors que les salaires des ADMR sont déjà particulièrement bas et que leurs droits en matière de remboursement, de frais de route, de temps de travail, etc. sont déjà des plus restreints. Eh bien, c'est le contraire qu'il faudrait. Il faut garantir et améliorer ces emplois ainsi que tous ces services indispensables à la population. Social, prenant par exemple en charge l'insertion de jeunes, ne sont pas épargnées, puisqu'elles sont maintenant systématiquement mises en concurrence afin de permettre au Conseil général et autres collectivités locales de choisir celles qui offrent les tarifs les plus bas. Cela se fait toujours au détriment du service rendu, mais aussi des personnels, aboutissant même parfois à la disparition des plus petites associations. N'y échappe pas non plus les services rendus au public par la Sécu. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube vient de supprimer, au début de la rentrée d'après les vacances, de nombreuses permanences dans l'agglomération, obligeant les assurés sociaux à se déplacer sur des kilomètres et provoquant l'allongement des files d'attente au guichet. Le directeur a même eu le cynisme de prétendre avoir agi par souci d'équité pour développer l'accueil dans le rural. Mensonge. Puisque le bilan est de 9 journées d'accueil supprimées dans l'agglomération pour une seule journée créé à la campagne. C'est l'histoire du pâté d'alouette. Cheval, un cheval pour une alouette. On supprime beaucoup et on crée très très peu. C'est en réalité, pour tout le monde, une détérioration de l'accueil du public qui va pourrir la vie des usagers et aggraver les conditions de travail des employés de la Civu. À la chapelle Saint-Luc, la réduction de l'accueil du public, qui n'a plus lieu maintenant que le matin, fait que la situation est devenue intenable au guichet, alors que derrière, dans les bureaux, les dossiers de CMU en retard continuent de s'accumuler. Tout cela, faute de personnel. Cette politique, visant à faire sans cesse des économies sur le dos des salariés, des usagers, a pour résultat un chômage endémique. 21 400 demandeurs d'emploi recensés officiellement. C'est officiellement sur l'eau. C'est en réalité bien plus. Il a augmenté de 9,7, quasiment 10% sur l'année. Et si on ne comptabilise que ceux qui n'ont eu vraiment aucun boulot, aucun budget, à partir du moment où on a un petit boulot de quelques heures, on change de secteur, eh bien, ceux qui n'ont eu aucun petit boulot, là, la progression est de 20%. Cette hausse a été accentuée par la fin des vendanges qui, parce que précoces cette année, se sont terminées beaucoup plus tôt. C'est dire que la situation, déjà insupportable, se dégrade encore. Pourtant, les pouvoirs publics locaux nous vantent des secteurs en expansion comme les centres d'appel. Et il est vrai que ce secteur, je crois que certains connaissent les conditions de travail qui y règnent, et il est vrai que ce secteur s'est fortement développé ces dernières années. Les trois sites les plus importants emploient plus de 1500 téléconseillers, téléenquêteurs, hotliner, je ne sais pas ce que c'est, pas très féru, télévendeurs, superviseurs. C'est superviseurs, super. Mais les salaires, ils sont particulièrement bas et les conditions de travail particulièrement pénibles. Au point que, par exemple, EuroCRM est obligé d'embaucher chaque année 1 000 000 de salariés. Chaque année, EuroCRM embauche 1 000 salariés. Souvent même, en contrat à durée indéterminée. Enfin, quand même après l'inévitable travail gratuit d'un mois, sous le prétexte de stage, puis ensuite d'une formation de 6 mois, 1 007 mois, eh bien, de mise à l'essai, eh bien, on finit par parfois l'embaucher. Mais 1 000 embauches chaque année, pour un site de 350 salariés seulement, cela signifie des centaines de salariés qui vont travailler pour avoir un salaire qui s'accroche et qui finissent par craquer parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette surexploitation. Et ça, voilà l'avenir que nous proposent ces politiques. Baroin peut nous parler de réindustrialisation et de relance, ici à Troyes, dans les salons de l'Hôtel de Ville ou devant les micros. Ce ne sont que des paroles. Il peut causer à Paris, dans les salons de l'Élysée ou à la télévision. Il peut même faire le malin en s'indignant de la bourde d'une agence de notation qui annonce, par erreur, une menace de retirer le AAA à la France. La réalité est que les gouvernements successifs n'ont cessé de creuser le déficit d'État pour multiplier les cadeaux aux entreprises et renflouer les banques qui, maintenant, font payer l'argent qu'elles prêtent aux États de plus en plus cher. Triple A ou pas. Sa défense du triple A, on a même fait rire plus d'un ici. Nous qui, en matière de notation, connaissons non pas le triple A, mais les 5 A. Pour les 5 initiales de Association Amicale des Amateurs d'Andouillettes Authentiques. 5 A qui sont devenus une sorte de label autoproclamé pour 5 producteurs à l'ancienne de la fameuse andouillette de Troyes. Eh bien, laissons les ministres faire les andouilles et nous préparons-nous à combattre leur politique servile aux intérêts du capital.